Nous ouvrons nos Bibles dans l'Ancien Testament toujours et dans le premier livre des rois. Premier livre des rois au chapitre 12. Premier livre des rois, chapitre 12. Nous en lisons les 19 premiers versets. 1 Roi 12, versets 1 à 19. Nous sommes en 931 avant Jésus-Christ. Le roi Salomon vient de mourir. Et c'est son fils Roboam qui lui succède. Verset premier, Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler, et alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi : Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage, allège le joug que nous a imposé ton père ?» Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Et le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi, le roi n'écouta point le peuple et cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, pourvois ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem Et c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Au chapitre 14 et au verset 21 et suivant, il nous est dit que Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël, pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues, des idoles, sur toute colline élevée, sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Nous allons vers le livre des Proverbes, donc un peu plus loin, dans l'Ancien Testament, juste après le livre des Psaumes. Et là aussi, quelques fragments du livre des Proverbes, au chapitre 4 tout d'abord, les cinq premiers versets. Proverbes 4, versets 1 à 5. 4, 1 à 5. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais moi-même un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Un peu plus loin, versets 20 à 23. 20 à 23, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et enfin, au chapitre 5, les cinq premiers versets. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Priorité et équilibre dans l'éducation de nos enfants. Nous avons entrepris ce matin d'examiner de près une priorité fondamentale, sans laquelle tout ce que nous pourrions dire en matière pratique d'éducation des enfants n'aurait aucune valeur. Nous l'avons intitulée sur un plan global, donc qui inclut ce que nous allons partager cet après-midi, éduquer par l'exemple. Et nous avons placé ce matin, et déjà en partie hier soir, à la base de cette éducation par l'exemple, la nécessité d'une juste attitude fondamentale. Dans nos rapports avec l'enfant, en relation à nos rapports avec Dieu. Si tu me donnes, je te donnerai. C'est ce que nous avons découvert en particulier dans le chapitre premier du premier livre de Samuel, en soulignant donc que chaque enfant est un cadeau de Dieu, une grâce, que Dieu nous le donne pour que nous le lui donnions pour tous les jours de sa vie, que notre don au Seigneur est un prêt, c'est-à-dire que nous nous reposons sur le Seigneur tout en restant responsables. Nous savons que nous pouvons lui faire confiance tout en prenant soin de nos enfants. Nous pouvons vivre ainsi notre responsabilité de parents dans un climat de confiance et le regard sur lui. Et si nous n'avons pas d'enfants, notre bonheur sera de toute manière dans le don total de nous-mêmes au Seigneur. Et enfin, comme Anne, chaque année, nous veillons à reprendre les mesures de l'enfant pour adapter notre attitude, notre comportement, notre éducation à sa taille nouvelle. Nous aurons l'occasion d'y revenir de manière extrêmement pratique. Mais en tout cas, Dieu doit rester Seigneur, quel que soit notre statut à cet égard. Alors sur cette base, sur cette toile de fond qui est vraiment la clé fondamentale de l'éducation des enfants, abordons de plus près cette question de l'importance de l'exemple. En soulignant que nos enfants sont les plus proches observateurs de notre vie. Ils sont aussi, et ce n'est pas mince, nos plus riches espérances quant au salut. Cela veut dire que notre exemple va jouer un rôle fondamental pour leur avenir. Une association de parents d'élèves avait demandé à tous les parents de venir assister à une réunion spéciale. Et cette association avait assorti cette invitation d'une demande. Il fallait que les parents invités apportent toutes les serviettes qu'ils avaient ramenées des hôtels du monde entier dans tous les pays qu'ils avaient visités. C'était une demande un peu bizarre, mais enfin, les parents de suivre à la lettre la demande du comité associatif, et on accrocha donc ces serviettes en rangée à l'avant de la salle. Vous imaginez un petit peu comme du linge suspendu sur les fils dans le jardin par un beau soleil pour qu'il sèche. Il y avait des serviettes de Hong Kong, du Japon, de l'Allemagne, de toutes les importantes chaînes d'hôtels internationales. Et une fois que tout cela était bien installé sous les yeux de tous ses invités, l'orateur d'annoncer enfin le thème de la rencontre et du discours qu'il allait prononcer. Comment enseigner l'honnêteté à vos enfants? Inutile de dire que personne ne récupérera ses serviettes après la réunion. Comment enseigner l'honnêteté à nos enfants? Le docteur Benjamin Spock, ça ne vous dit peut-être rien, mais nous aurons l'occasion de l'évoquer au mois de juin, parce qu'il a été un des personnages clés dans la modification très sensible de l'approche pédagogique, de l'approche d'éducation des enfants. C'est catastrophique et il a dû lui-même en convenir, mais trop tard, lorsqu'il était grand-père, et qu'il souffrait de l'effet de ses propres méthodes sur ses petits-enfants. Le docteur Benjamin Spock a tout de même dit ceci: la meilleure éducation que les enfants puissent recevoir réside dans l'image que leurs parents leur renvoient. Sur le plan intellectuel, physique et spirituel, les enfants, étant les plus grands imitateurs qui soient, imitent naturellement, en tout cas tant qu'ils sont petits, et automatiquement leurs parents. Un auteur inconnu décrit ceci: un homme prudent, je dois être. Un petit homme me suit. Je n'ose pas m'égarer car je crains qu'il n'en fasse autant. Il a toujours les regards fixés sur moi. Il imite tout ce qu'il me voit faire. Il dit qu'il sera comme moi. Ce petit homme qui me suit. Et je dois me rappeler qu'en marchant sous le soleil d'été et la neige de l'hiver, je façonne pour les années à venir ce petit homme qui me suit. Et le célèbre Albert Schweitzer a utilisé une formulation très forte. Il a même poussé la formulation extrêmement loin, de manière absolue. Mais pour mieux choquer et faire pénétrer cette vérité profonde, lorsqu'il a écrit ceci, il n'y a que trois manières d'enseigner l'enfant. La première, c'est par l'exemple. La seconde, c'est par l'exemple. Et la troisième, c'est par l'exemple. Il est bien évident que ce ne sont pas les seules manières, mais il voulait faire passer de manière forte et choquante ce message que, selon lequel il y a une porte étroite à emprunter obligatoirement, c'est celle de la qualité de l'exemple que donnent les parents. Ceci est valable dans l'éducation des enfants par les parents, mais nous pouvons étendre notre réflexion. Il faudrait en dire tout autant de toute relation d'éducation, de la relation entre l'enseignant et ses élèves. Et si je le dis, c'est parce que j'ai sous les yeux une anecdote qui vient tout droit d'Alsace, de la part d'un élève qui communique ceci: nouvellement inscrit dans un lycée connu pour la violence de certains élèves, je n'étais pas réjoui à l'idée de me retrouver parmi les bandes de durs. Le premier jour, j'arrivais dans la salle de cours un peu en avance et je fus surpris de n'y voir qu'un seul élève. Mais quel élève ? Tête rasée par endroits, boucle d'oreilles, tatouage, blouson et pantalon de cuir noir, carrure impressionnante. Selon toute vraisemblance, j'étais en face du chef d'une de ces bandes diaboliques. Un silence pesant s'installa. Mes jambes flageolaient. Mon front devint humide. Au bout de quelques minutes, j'osais pourtant lui demander: « Tu viens de quel collège ? »
Moi ? S'étonna-t-il. Je viens de l'université de Strasbourg, je suis le nouveau prof de maths. Les enfants, je le répète, sont les plus proches observateurs de notre vie. Ils doivent être donc dans nos vies, bien entendu, une priorité. Je le dis aussi parce que les rapports de police, et notamment de la police de la route, sont parfois très éloquents à cet égard. Je me souviens de ce couple qui, ne voulant pas laisser son enfant à la maison, n'a rien trouvé de mieux que d'attacher le landau derrière la moto. Et quand ils ont été arrêtés par la gendarmerie, celle-ci n'a pu que sanctionner l'absence de casque, la législation n'ayant pas prévu ce genre de situation. Une autre fois, à la grande surprise des motards de la gendarmerie nationale, en arrêtant une voiture sur le bas-côté de l'autoroute, ils ont découvert que le bébé était dans le landau, mais que le landau était sur le toit de la voiture. Donc l'enfant est une priorité. Et l'enfant est une priorité précisément tout d'abord au niveau de l'exemple. Et j'aimerais dire cet après-midi non, non à l'autorité de la casquette. Non à l'autorité de la casquette, c'est-à-dire que notre autorité ne s'appuie pas uniquement et d'abord sur le fait que nous soyons père ou mère, ce qu'on appelle une autorité de fonction. En réalité, notre autorité doit avant tout s'appuyer sur l'exemple. Il ne suffit pas d'avoir un titre et une fonction pour qu'on ait ipso facto l'autorité qu'on devrait avoir. L'autorité est liée bien plus à la personne qu'à la fonction, aux qualités qui sont en nous, que nous manifestons, et non à l'uniforme que l'on revêt. Et s'il y a eu énormément de problèmes qui ont été créés par cette révolution profonde, cette lame de fond qu'a été la révolution de mai 68, il y a eu au moins en tout cas, et je le dis en relativisant, il y a eu en tout cas un bon effet, c'est que cette autorité de la casquette sur laquelle pendant trop longtemps les parents ou certaines corporations à l'œuvre se sont appuyées pour souligner quelle ou qu'il devait être suivi, eh bien, cette autorité de la casquette a été secouée et bien des fruits véreux en sont tombés. Demander, par exemple, à ses enfants la soumission exige que nous acceptions nous-mêmes l'autorité de Dieu sur nos vies. Nous avons de l'autorité dans la mesure où nous nous soumettons à l'autorité de Dieu. Et un vrai chef, en réalité, c'est quelqu'un qui a d'abord appris à obéir. Goethe l'a dit dans une petite phrase toute simple, la vraie autorité repose sur l'obéissance. Et là, comme je l'annonçais ce matin, il vaut la peine de revenir au vieillard, à ce grand-père Abraham. Parce qu'il y a une dimension qui est particulièrement émouvante dans Genèse 22 que nous lisions ensemble et que nous commentions brièvement ce matin. Genèse 22. Ce texte nous pose obligatoirement, à un moment donné de notre réflexion, une question. Quelle est la raison de la docilité du fils dans sa relation avec le père? Vous ne trouvez pas qu'il y a là quelque chose d'assez extraordinaire? J'imagine que dans cette situation, le fils devait se poser bien des questions. Il pouvait, à la limite, même trouver le comportement du père sans savoir où se trouvait l'animal pour le sacrifice. Il pouvait trouver à quelque part l'attitude du père quelque peu incohérente. Et pourtant, pendant 3 jours, ils ont marché ensemble. Et il y a une insistance dans le texte sur leur marche ensemble. Vous avez remarqué? Verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Puis ensuite commence ce dialogue qui est assez bouleversant, pathétique. On imagine la souffrance qui gît dans le cœur de ce père qui aime tant son fils. Et puis, à nouveau, comme un refrain, à la fin du verset 8, ils marchèrent tous deux ensemble. Un père et un fils, qui dans une situation extrêmement douloureuse, marchent côte à côte, alors que le cœur du fils est sans doute submergé de toutes sortes de questions, d'interrogations. Il n'a pas l'habitude de voir son fils comme ça. D'autant plus que son fils n'est plus un enfant. Il est en tout cas au moins adolescent. Peut-être jeune adulte. L'historien juif Joseph du 1er siècle, qui a travaillé au service des Romains, qui a écrit des ouvrages remarquables sur les antiquités juives, un commentaire sur l'Ancien Testament, qui avait des sources que nous n'avons pas, précise au niveau de ce récit que Isaac avait 25 ans. Nous ne savons pas si nous devons le prendre à la lettre, parce qu'ici et là, Joseph semble aussi avoir dérapé. Mais admettons qu'il ait entre 15 et 25 ans. C'était un jeune homme qui, à un moment donné, vous le voyez à partir du verset 9, se laisse faire. Son père, qui le chérit, après avoir élevé l'autel et rangé le bois, lit son fils Isaac, le met sur l'autel par-dessus le bois, il étend la main, et le fils laisse faire. Et si le fils laisse faire, et si le fils a accepté de marcher respectueusement à côté du père, c'est parce que le fils a été impressionné par l'exemple du père. Impact du vécu d'un père qui permet à un fils d'accepter l'inacceptable, de continuer jusqu'au bout, même lorsqu'il ne comprend plus, à faire confiance au Père, en disant « Mon Père a une relation telle avec Dieu, que même si son comportement me semble incohérent en cet instant, je suis persuadé qu'il a raison. »
Quel témoignage éloquent que ce chapitre 22 concernant la qualité de vie, de foi, de piété du Père, constatée par le Fils. Alors maintenant, nous allons faire du Rembrandt, c'est-à-dire du clair-obscur. Et après avoir vu la clarté lumineuse de Genèse 22, nous allons vers les brumes ténébreuses d'un roi qui commença bien et qui termina très mal. Je veux parler du roi Salomon. Une partie importante du livre des Proverbes est manifestement de la plume de Salomon. Un certain nombre de chapitres, tout un bloc du livre de Proverbes est véritablement signé de sa main. Il en est l'auteur, nous le croyons. Un certain nombre d'autres passages sont signés d'autres auteurs. Les gens d'Ézéchias, etc. Et puis il y a toute une série de chapitres, je crois jusqu'au chapitre 9 ou 10, qui ne sont pas signés, mais dont il est fort probable que Salomon aussi en soit l'auteur. Et une lecture attentive de ces premiers chapitres montre que continuellement, Salomon s'adresse soit à ses fils, soit à son fils, privilégiant ainsi l'un d'entre eux. Et il va leur dire des choses extraordinaires. Vous avez remarqué ces quelques extraits, ces pépites que nous avons tirées de l'enseignement de Salomon à ses enfants et en particulier à son fils. On peut d'ailleurs se demander s'il ne s'adressait pas plus particulièrement à son fils et successeur, celui qui allait monter après lui sur le trône, ce qui pourrait être parfaitement logique. Il évoque le sujet de la sagesse, la nécessité de garder son cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Il évoque la nécessité de se garder, de se laisser séduire par l'étrangère, c'est-à-dire la prostituée, la femme adultère, qui sait très bien monter ses coups. Il y consacre même plusieurs chapitres. Bref, s'il y a un papa qui a su donner un enseignement de remarquable qualité à ses enfants, c'est bien le roi Salomon. Et les Écritures nous disent que les conseils donnés par Salomon à ses enfants et au-delà à tous ceux qui liraient ces textes bibliques étaient des conseils inspirés par le Saint-Esprit. Roboam, avec un tel père et avec de si bons conseils, aurait dû devenir un homme absolument remarquable. Or, que s'est-il passé? Ce fut exactement le contraire. Sa vie est une succession d'échecs. Avec un premier échec extrêmement préjudiciable à Israël, nous l'avons vu dans Un roi au chapitre 12, puisque de son attitude jaillit le schisme avec Jéroboam et donc toute une partie du royaume, 10 tribus qui vont avec ce personnage, Jéroboam, se tourner vers une caricature de Dieu avec 2 veaux d'or situés
aux deux extrémités du royaume du Nord avec la mise en place d'une sorte de faux sacerdoce parallèle, concurrent, pour éviter une hémorragie permanente de gens qui sont pieux et qui habitent au Nord et qui voudraient à tout prix se rendre quand même à Jérusalem pour sacrifier. Et vous avez remarqué, au chapitre 12, que, dans un sens, ça commence bien. Lorsque une délégation de l'Assemblée d'Israël vient au nom de l'Assemblée pour lui dire « Ton père a rendu notre joug dur, toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. » Il est sage, Roboam. Il prend du recul. Il leur dit, eh bien écoutez, laissez-moi 3 jours, j'ai besoin de me retourner, j'ai besoin de prendre conseil, c'est très bien. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette sagesse qui manque si souvent aujourd'hui, y compris à ceux qui gouvernent. Et puis la deuxième décision de Roboam est sage elle aussi, puisque il consulte les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père. Il va vers les aînés en pensant qu'être aîné doit sous-entendre expérience, accumulation d'une sagesse pratique. Et c'est exactement ce qui va se passer, puisque lorsqu'il leur pose la question, ils lui répondent, si aujourd'hui tu te rends, si tu rends service à ce peuple, si tu te fais serviteur de ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Et il y a là, oh bien sûr, une attitude quelque peu diplomatique, mais quand même, qui recèle à quelque part une certaine sagesse. Si on heurte de front cette attitude, cette question de la part de ces délégués de l'Assemblée d'Israël, on risque de braquer et de faire du mal. Donc les deux premières décisions de Roboam sont bonnes. Et puis le problème, c'est ensuite, n'est-ce pas? Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Alors c'est intéressant ce texte, parce que la réponse de ces jeunes gens révèle quels étaient ses copains quand il était jeune. Et ses anciens petits copains, qui ont grandi en même temps que lui, et dont il est maintenant séparé par l'autorité de la royauté, que lui disent-ils ? Ton père a rendu notre joug pesant et toi allèges-le nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié de fouet et moi je vous châtierai avec des scorpions. Mes amis, quelle agressivité, quel manque de sagesse. Et le résultat ne tarde pas, puisque le schisme intervient quasi aussitôt, et que devant l'ampleur du désastre, Roboam alors va s'enfoncer dans sa folie, puisqu'il ne trouve rien de mieux que d'envoyer le ministre des Finances le préposer aux impôts. Écoutez, vous savez, ça c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Parler d'impôts à un peuple en colère, c'est provoquer une révolution. Et c'est exactement ce que Roboam, dans sa folie, parce qu'il a suivi le conseil des jeunes gens, va faire. Alors vous ne vous étonnez pas que finalement le préposé aux impôts est lapidé par tout Israël. Et c'est désormais le roi Roboam lui-même dont le trône est en danger. Alors il y a là plusieurs enseignements. Pourquoi est-ce que Roboam en est arrivé là? Alors qu'il a reçu, répétons-le, des conseils de sagesse absolument remarquables, exemplaires, équilibrés, de la part de son père. Eh bien, le problème, c'est que Roboam a grandi en regardant vivre son père. Et pendant un certain temps, il n'y avait pas de problème. Son père vivait en harmonie avec les préceptes qu'il donnait, qu'il confiait à son fils. Mais le problème, c'est que plus Roboam grandissait, il était l'aîné, puisqu'il succède, plus Roboam grandissait, plus il voyait un fossé se creuser entre les préceptes et la conduite de son père. Ce qui fait que finalement, Roboam ne s'est plus laissé impressionner par les préceptes de son père Salomon, mais il s'est laissé impressionner par sa conduite. C'est l'exemple de la dégradation spirituelle, morale de son père qui a primé sur l'excellence des conseils spirituels remarquables, remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas, que nous trouvons dans le livre des Proverbes. D'ailleurs, là, il vaut peut-être simplement la peine que nous lisions un ou deux passages. Allons faire un tour au chapitre 17 du Deutéronome. Deutéronome 17, donc dans les tout premiers livres de la Bible. Deutéronome 17, au verset 14 et suivant, il est question des prescriptions relatives à la royauté. C'est très important. Ce que le roi devra faire et ne devra pas faire. Et il est écrit, lorsque tu seras entré, je suis dans Deutéronome 17, 14, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais premièrement, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Or, si nous allons non dans un roi 12 que nous considérons en ce moment, mais dans les chapitres précédents, par exemple dans 1 roi chapitre 10, versets 26 et suivant, 1 roi 10, 26 et suivant, Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. Et au verset 28, il est dit que c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe, un char monté sortait d'Égypte pour 600 sicles d'argent et un cheval pour 150 sicles. Ils amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie, pour les rois païens des alentours. C'est-à-dire que Salomon avait fait de son royaume une plaque tournante du commerce des chevaux en provenance d'Égypte. C'était même plus de l'artisanat. Contradiction flagrante avec la deuxième mise en garde dans ses prescriptions relatives à la royauté. Nous continuons le texte après les chevaux. Verset 17 de Deutéronome 17. « Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. » Alors, dans un roi au chapitre 11, à partir du verset 1er, un roi 11, verset 1er, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Et quand on sait le genre de Dieu qui était adoré par ces nations païennes, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. De roi, de quoi rendre jaloux certains émirs et grands cheikhs du pétrole dans les émirats. De Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, disait-il à son fils, car de lui viennent les sources de la vie. » Et puis regardez, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Et Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens. Et divinité des Sidoniens, je vous assure, les Sidoniens, c'était les Phéniciens. Et les Phéniciens avaient dans le domaine d'Astarté un culte qui était absolument abominable, pire que l'Astarté qui était adorée par certaines tribus qui vivaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort d'ailleurs, la Palestine. Milcom, l'abomination des Ammonites, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Tout ça à cause de ces femmes. Et mes amis, Kemosh et Moloch, et on le sait par notamment l'archéologie et des récits profanes, c'était des divinités qui dévoraient en quelque sorte des enfants vivants. C'était généralement des divinités qui avaient une certaine forme humaine, tout à fait repoussante, mais qui étaient en même temps de véritables chaudières, de véritables fours, n'est-ce pas ? Et on ouvrait la porte, on avait un feu terrifiant là-dedans qui faisait tout rougeoyer, et puis on enfournait les enfants d'Israël, les petits bébés. Donc en face du temple de Jérusalem, sur les collines, juste en face, mes amis, le peuple de Juda, sous l'autorité de Salomon, à cause de son amour pour les femmes étrangères, en était arrivé à offrir ses propres enfants en sacrifice. C'était quelque chose d'odieux. On sait que certaines de ces divinités avaient les bras étendus, hein, des bras de fonte, si vous voulez, qui étaient étendus, et on posait les enfants vivants sur ces bras qui étaient incandescents. Et on louait ces divinités païennes au son des tambours et de toutes sortes d'instruments, n'est-ce pas, qui couvraient les hurlements de ces bébés qui mouraient dans d'atroces souffrances. Tout ça, c'est Salomon. Verset 8, il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Voilà la troisième des prescriptions relatives à la royauté. Nous avons vu celle des chevaux en provenance d'Égypte être violés, mais alors complètement, n'est-ce pas, pas à moitié. Et nous voyons alors
la troisième des prescriptions maintenant avec ce nombre de femmes qui est elle aussi étrangement violée. Mais ça continue. Qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Un traducteur très proche du texte hébreu a rendu, juif de surcroît, a rendu ce texte de cette manière, il ne multipliera pas pour lui l'argent et l'or. Il ne s'en amassera pas outre mesure. Alors vous me direz, oui, mais ça c'est pas de sa faute. Puisque quand Salomon a demandé dans une prière à l'Éternel que l'Éternel lui donne la sagesse, c'est même d'ailleurs l'Éternel lui-même qui lui a tendu la perche. Dieu lui a dit, eh bien, puisque tu as demandé la sagesse, puisque tu n'as pas demandé d'autre chose, eh bien, je te donnerai la richesse de surcroît. Alors nous sommes tentés à quelques pas de dire, mais ça, ce n'est pas la responsabilité de Salomon, ça, c'est la responsabilité de Dieu. Alors c'est Dieu qui a piégé Salomon. Mais attention, vous avez remarqué ce que nous avons lu. Le problème n'est pas dans le fait d'avoir des richesses. Le problème est dans la gestion de ces richesses. Le problème, c'est que Salomon s'est amassé des richesses pour lui. C'est-à-dire qu'au lieu de faire circuler les richesses, au lieu d'en faire bénéficier l'ensemble de son peuple, d'être un homme généreux pour Dieu, il s'est glorifié d'amasser, d'entasser encore pour lui. Violant ainsi la quatrième des prescriptions relatives à la royauté. Donc, nous réalisons que Roboam a grandi en regardant vivre son père, et il a constaté en le regardant vivre que son père était de plus en plus en contradiction, en porte-à-faux, avec les préceptes qu'il lui avait enseignés. Alors ne nous étonnons pas, n'est-ce pas, si Roboam, à son tour, va se constituer son petit harem de quelques 18 femmes et 60 concubines. Ne nous étonnons pas si sa propre mère n'est pas du peuple d'Israël, puisqu'il s'agit d'une ammonite, Naama l'ammonite, et nous l'avons lu dans 1 Roi 14, versets 21 à 31. Le drame, c'est que Roboam, à cause du péché de son père, qui pourtant l'avait rendu attentif dans son enseignement à faire attention à ne pas tomber dans l'immoralité, à ne pas vivre en relation avec n'importe quelle femme, n'est-ce pas ? Eh bien, le problème, c'est que le père n'a pu offrir à son enfant rien d'autre qu'une mère païenne et de surcroît une mère issue d'un groupement qui a posé d'énormes problèmes spirituels, moraux, sociaux au peuple d'Israël, à savoir les Ammonites. Donc, la raison de l'échec de Salomon en tant que père ne réside pas dans les instructions données, mais dans l'instructeur. Elle ne réside pas dans les directive, mais dans le directeur. Et l'échec de Salomon, c'est surtout l'échec dans l'exemple. Et maintenant, je voudrais quand même revenir sur un aspect sur lequel nous reviendrons peut-être ultérieurement dans la suite de nos séries. C'est au chapitre 12, sur l'environnement de Roboam quand il était jeune. Nous avons lu au verset 8 de 1 Roi 12, Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Ils avaient donc été élevés ensemble.
Cela veut dire qu'ils étaient les bienvenus, qu'ils étaient même nourris à la cour de Salomon le papa. Il ne s'agit même pas d'amitié passagère. Il s'agit de jeunes gens qui, à l'intérieur même du palais royal, avaient en quelque sorte déjà sapé, amoindri, annulé tout ce que les paroles de vraie sagesse léguées par Salomon pouvaient apporter de bon à Roboam, le jeune prince. Il y avait là le fruit dans l'œuf, n'est-ce pas ? Tout était taré au départ. Dans la maison même de l'éducation royale du fils par le père, l'ennemi était à l'œuvre par le biais de ces jeunes gens. Et on peut d'ailleurs se poser la question suivante, et où était donc Salomon pour permettre à une telle semence d'engendrer un jour une aussi terrible moisson? On peut se demander si le père, Salomon, n'était pas trop absorbé à satisfaire déjà certaines de ses passions, n'ayant plus le temps de s'occuper des camarades et des camaraderies de son fils. Et cela doit nous interpeller en tant que parents. Parce qu'il arrive effectivement que des camaraderies qui deviennent habituelles et qui ne sont pas contrôlées parce que nous ne voulons pas, soi-disant, perturber nos enfants, nous estimons qu'ils doivent avoir leurs camarades et que nous n'avons trop rien à faire là-dedans, n'est-ce pas ? Et pendant ce temps, tout un travail de sape se fait. C'est le métier de Pénélope à l'envers, n'est-ce pas ? Nous construisons, nous donnons des préceptes, mais comme nous ne contrôlons rien au niveau des amitiés, comme nous voulons avoir la cote parfois dans le cœur de nos enfants, en étant des parents larges, ouverts, généreux, eh bien il se passe exactement ce qui se passait à la cour de Pharaon. Pharaon était occupé. Il avait son boulot, il avait ses fréquentations, et pendant ce temps, eh bien, ses enfants faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et le résultat, c'est le drame, c'est le schisme que nous constatons, et c'est toute une royauté qui va aller complètement de travers. Ce que nous sommes influencera beaucoup plus nos enfants que ce que nous pouvons leur dire. Et nous devons nous souvenir que plus nos enfants grandissent, plus l'exemple que nous donnons devient fondamental dans leur formation. Au point qu'il arrive un moment dans ce processus de croissance de nos enfants, tant qu'ils sont encore au foyer, où nos mots pèsent désormais très très peu, et où il faut nous garder de vouloir être longs et abondants dans nos préceptes. Ils en arrivent à un moment donné à ne plus le supporter. Ce n'est plus le temps des préceptes. Il faut là ajuster la robe, comme nous avons dit, n'est-ce pas ? Et c'est le moment où, par exemple, il faut plus parler à Dieu de nos enfants que parler à nos enfants de Dieu. L'exemple, alors, devient très important. Et c'est lui qui va être tout spécialement déterminant. Alors, j'aimerais ici simplement vous lire un texte absolument remarquable et qui a ceci de remarquable, c'est qu'il date de 1885. Il sort d'un almanach comme il en existait beaucoup autrefois, c'est un almanach suisse, très célèbre dans l'histoire suisse, qui s'appelait le messager boiteux, et qui donne des conseils aux parents. Alors écoutez, rappelez-vous, pères et mères, nous sommes en 1885, que l'instruction n'est rien sans une bonne éducation, et que pour celle-ci, l'école est absolument impuissante sans votre concours. Dites-vous bien que ce que l'on s'efforce de donner à vos enfants dans les établissements d'instruction publique est inévitablement frappé de stérilité si l'exemple donné à la maison, si l'influence et les discours des parents ne sont pas ce qu'ils devraient être. Souvenez-vous que s'il appartient à l'école de faire de vos enfants des êtres instruits, c'est à vous surtout que revient l'honneur et la responsabilité d'en faire des hommes, c'est-à-dire des caractères droits, honnêtes et bons, en luttant avec le secours de Dieu contre leurs mauvais penchants, en faisant éclore de votre patiente sollicitude les germes des vertus qui feront plus tard de vos enfants des membres honorables et utiles de la société. Voici à ce sujet quelques recommandations pratiques. Premièrement, exigez de vos enfants la politesse la plus stricte envers vous d'abord, nous y reviendrons, puis envers leur maître, envers les magistrats, envers les vieillards, envers leurs camarades de travail ou de distraction. Ne tolérez jamais sans une sérieuse réprimande un manque de respect quelconque à votre égard ou à l'égard de leurs supérieurs, ni une grossièreté de langage, jurements, propos indécents, chansons obscènes, etc. Deuxièmement, réprimez chez eux avec autant de fermeté que de vigilance toute tentative d'émancipation précoce, tel qu'usage prématuré du tabac, fréquentation des cabarets, mauvaise lecture et, ce qui en est souvent l'accompagnement ordinaire, le manque de droiture et d'obéissance, le vagabondage, le maraudage et les folles dépenses. Troisièmement, ne permettez pas à vos enfants de quitter le foyer domestique le soir, surtout sans votre autorisation et sans de bons motifs. Craignez de les laisser errer sans surveillance. Faites-leur rendre compte de leurs actions et de l'usage de leur temps. Quatrièmement, ne les laissez point partir pour l'école sans vous être assuré qu'ils ont vaqué aux soins indispensables de propreté, sans lesquels une bonne tenue et le bon ordre sont en souffrance. En un mot, pères et mères, veillez sur eux. Qui dit paternité dit responsabilité. Ce que vous êtes aujourd'hui à l'égard de vos enfants, par votre exemple et par vos conseils, c'est ce qu'ils seront un jour. C'est-à-dire votre joie ou votre confusion, votre bonheur ou votre honte. 1885. Quel exemple donnons-nous à nos enfants? Et vous savez, nous l'avons dit ce matin, déjà hier soir, nous pouvons transposer dans quantité de domaines, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a harmonie entre notre témoignage parlé et notre témoignage vécu? Ce qui est valable en particulier pour l'éducation des enfants l'est tout autant dans quantité d'autres domaines de la vie. Jésus l'a dit dans Matthieu au chapitre 18, en prenant un enfant dans ses bras, Matthieu 18, verset 1er, à ce moment, Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais alors attention, mais si quelqu'un scandalisé était une pierre d'achoppement, une occasion de chute, une pierre placée sur son chemin devant lui pour qu'il trébuche, n'est-ce pas ? Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Peut-être avons-nous tendance aujourd'hui à passer trop vite sur de tels textes. L'avertissement du Seigneur Jésus lui-même est grandement solennel. Malheur au monde à cause des scandales. Oh, il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Et alors quand on va un peu plus loin dans ce même évangile et qu'on entend ce que Jésus dit en condamnant les scribes et les pharisiens au chapitre 23 et au verset 3 par exemple, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Alors je comprends aussi dans la première épître à Timothée, vers la fin du Nouveau Testament, au chapitre 3, dans ce portrait robot de l'ancien conducteur de l'église locale, 1 Timothée chapitre 3, versets 2 et 3. Prenons verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope, d'évêque, mais c'est-à-dire plus exactement de surveillant, d'intendant, de conducteur de l'église locale, il n'y a pas de sens de hiérarchie, c'est ce qu'on a fait après, c'est regrettable, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, intéressant, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Vous remarquez que tout cela, c'est l'exemple. C'est le vécu. Et une fois que dans ce portrait robot, l'ancien a été présenté dans son caractère et dans ses œuvres, alors il est question de sa famille. Il faut, verset 4, qu'il dirige ou qu'il préside bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté ou en toute dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Et bien entendu, dans ce portrait robot, Dieu a voulu établir un rapport très étroit, entre le caractère et la conduite de l'ancien dans sa vie de tous les jours et sa qualité de président de son propre foyer. Il ne peut pas être un bon président de son propre foyer, donc bien sûr, il ne peut pas non plus présider, conduire l'Église, si son caractère ne colle pas. S'il se conduit n'importe comment, s'il sort de ses gonds du matin au soir, si ses colères sont injustifiées, s'il ne vit pas dans l'honnêteté, dans l'intégrité, etc., n'est-ce pas ? Alors, en terminant, Il me faut quand même souligner une chose. Priorité et équilibre. Nous devons maintenant laisser la place à l'équilibre. Nous avons beaucoup parlé priorité cet après-midi. Et l'équilibre sera pour dire, attention, notre exemple n'est pas la garantie de leur salut futur à nos enfants. Notre exemple n'est pas la garantie de leur bonne conduite à venir. Une approche déséquilibrée des Écritures conduit certains membres d'Église au regard sévère à juger sans la moindre miséricorde et parfois de la manière la plus injuste qui soit des parents dont les enfants ont mal tourné en disant « Oh, il n'y a pas de fumée sans feu ». Si les enfants sont comme ça, vous pouvez être sûr que les parents... Et c'est grave dans l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il y a, je dirais, dans le fossé en lisière de nos églises locales, des parents meurtris. Parce qu'ils ont été jugés un peu vite. Sans miséricorde, sans regarder si dans les Écritures leur équation, si sèche, si raide, se vérifiait à quelque part. C'est trop facile d'accuser les parents de l'échec des enfants en disant qu'il s'agit de l'unique résultat d'un manque de bon exemple dans le foyer. Ça peut l'être. Et en ce sens, nous avons cet après-midi un avertissement solennel de la part de Dieu de ne pas être incohérent. Il ne s'agit pas que Dieu puisse nous accuser de manière juste d'avoir été incohérent. Il nous arrive à tous d'être incohérents dans notre vie. Mais il y a ceux qui s'installent dans l'incohérence, comme Salomon s'est installé dans l'incohérence, faisant le contraire de ce qu'il avait dit. Et puis il y a ceux qui, dès qu'ils plongent dans l'incohérence, viennent aussitôt au pied de la croix, viennent demander pardon au Seigneur, rectifient le tir, demandent à Dieu de les restaurer, vont demander pardon à leurs enfants, à leurs proches, à leurs voisins, à tous ceux qui ne les comprennent plus. Et puis ils reprennent la route, avec un désir d'avoir un comportement qui soit en accord avec leur langage pieux. Il y a d'autres facteurs importants qui vont aussi jouer un rôle déterminant dans la conduite future de nos enfants. Et le premier de ces facteurs déterminants sur lequel nous nous arrêterons au mois de juin, eh bien, c'est l'état du cœur naturel de nos enfants. Où notre verdict n'est pas celui de Jean-Jacques Rousseau. Parce que la Bible est claire et l'expérience le prouve. Nos enfants sont comme nous, dès leur venue sur la terre, naturellement corrompus au niveau de leur corps, cœur. Ils ne sont pas bons. Ils sont peut-être beaux, mignons, tout roses ou autrement, bien potelés. Ils nous font peut-être tourner la tête, mais quand ils piquent nos bébés roses leur première colère bleue, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui va de travers dans leur cœur, n'est-ce pas? Et c'est parfois profondément humiliant pour les parents de réaliser qu'ils ont engendré des enfants qui ont une nature mauvaise. Et ça, c'est un aspect déterminant. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'est pas un grand papa. Dieu n'a que des enfants. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui, à un moment donné de leur vie, se sont tournés vers son fils Jésus-Christ, ont réalisé la corruption naturelle de leur cœur, de leur mentalité, de leur raisonnement, de leur tendance. Ils ont remarqué combien ils violaient les lois de leur conscience. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la paix intérieure malgré des recherches dans toutes sortes de directions. Ils se sont dit, mais c'est fou ce que mon cœur est attaché au mal, même quand je veux faire le bien, c'est plus fort que moi. D'ailleurs, Platon le disait déjà, Platon disait, ce philosophe de quelques siècles avant Jésus-Christ, 4e siècle, n'est-ce pas, qui disait, il y a en moi 4 chevaux blancs et 4 chevaux noirs, 4 chevaux noirs qui poussent, qui tirent ma vie d'un côté, 4 chevaux blancs qui tirent ma vie de l'autre, le bien et le mal, n'est-ce pas. Et je suis un homme en perpétuel écartèlement. Il était lucide, Platon. Beaucoup plus lucide que bien des soi-disant athées de notre temps, qui n'arrivent pas à ses chevilles, n'est-ce pas? Et la pensée de Platon, finalement, ce n'est pas lui qui l'a inspirée, mais elle se retrouve dans les Écritures. Dieu dit la même chose par la bouche d'un des hommes les plus célèbres du 1er siècle, l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Romains chapitre 7, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je me rends compte qu'il y a en moi une loi qui va à l'encontre de mes désirs. Misérable, qui va me délivrer de ce corps de mort qui me pousse en bas? Et heureusement, il y a une suite, n'est-ce pas? Ah, gloire soit rendue à Dieu, il y a une délivrance possible, c'est le Seigneur Jésus, c'est la croix, c'est le sang versé, c'est le pardon obtenu, c'est Golgotha, n'est-ce pas? Et ça, il faut que l'enfant, grandissant, à un moment donné, le fasse. Et là, c'est son choix. C'est son choix. Alors l'exemple des parents, s'il est bon, va être un aiguillon dont Dieu va se servir pour une conviction intérieure. Mais ce sera l'enfant devenu plus grand qui devra lui-même prendre position. Ses parents ne pourront pas le faire pour lui. Et c'est un crève-cœur pour les parents que ce temps parfois très long, pendant lequel l'enfant grandissant, devenu adulte, installé dans la vie, marié, ayant des enfants, persiste et persiste encore, parfois s'endurcissant sous les yeux des parents. Alors que les parents voient combien de fois Dieu a tendu sa perche d'amour, a fait la cour, n'est-ce pas? Et chaque fois on a dit non, et on a dit non, et on a dit non encore, mais... Les parents ne peuvent rien faire d'autre que de prier, de continuer à laisser un bon exemple. Ils n'ont aucun autre pouvoir, mais c'est un immense pouvoir que celui de pouvoir prier pour les enfants et de continuer à leur donner l'exemple quand ils sont adultes. Dieu n'a pas de petits-enfants. Nous devons mettre le maximum d'atouts en faveur de leur bonheur futur, mais ils auront la responsabilité de leur choix. Alors c'est intéressant ici parce que, souvenez-vous, nous l'avons lu ce matin, dans 1 Samuel, nous avons considéré la merveilleuse personnalité de l'enfant Samuel. Et puis, au chapitre 8, dans le chapitre tournant de ce premier livre de Samuel, un moment extrêmement difficile. Samuel est maintenant un vieillard. Et bien sûr, il veut passer la main en vieillard sage qui sait qu'il arrive un moment où il faut que quelqu'un prenne le relais. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Combien ça devait être dur pour le père. Pour cet homme de Dieu absolument remarquable, courageux, homme de prière, d'une fidélité à toute épreuve, il n'y a pas un seul once, n'est-ce pas, de reproche de la part de Dieu à l'endroit de Samuel. surtout pas concernant l'éducation des enfants. Il ne nous est rien dit. Donc nous n'avons pas le droit de dire manifestement il y a anguille sous roche et les enfants montrent que le père, certainement, à un moment donné, s'est très très mal conduit, etc. Non, nous n'avons pas le droit de dire ça. Le problème, c'est que les anciens d'Israël s'en sont rendus compte aussi, puisqu'ils viennent voir Samuel à Rama et lui dire « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. » Vous imaginez la douleur de cet homme de Dieu devant cette requête des anciens du peuple qui lui disent « Non, ben, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, nous voulons un roi. Parce que tes fils ne sont pas à la hauteur. Ils ne marchent pas sur tes traces. » Voilà un exemple dans les Écritures. D'un homme de Dieu qui, jusqu'à son dernier souffle, il faut lire la suite d'un Samuel, pour voir que jusqu'à son dernier souffle, une fois qu'il n'était plus en fonction, Samuel s'était engagé à prier jusqu'à la fin de ses jours pour le redressement du peuple d'Israël. Quel homme fidèle. Nous avons évoqué les rois, Roboam, Jéroboam, Salomon, David. Écoutez, écoutez cette poésie. Oh, elle est vieille, elle date du XVIIe siècle. Et c'est un serviteur de Dieu britannique du début du XVIIe siècle qui écrit ceci: « Seigneur, je trouve la généalogie du Christ, donc ce texte qui figure dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er, dans Luc aussi, au début de Luc, qui montre, n'est-ce pas, quels étaient les ascendants depuis l'origine de l'humanité jusqu'à la venue de Jésus-Christ. « Seigneur, je trouve la généalogie du Christ étrangement variée. Quatre changements frappants en quatre générations. Roboam, le voilà. Roboam engendra Abija. Il s'agit là de la succession des rois, généralement, souvent, un fils succédant à son père, mais pas toujours. Mais généralement, c'est le fils qui succède au père. Parfois, si le fils meurt trop tôt, c'est un des autres enfants du même père qui prend la succession. Roboam engendra Abija. Un mauvais père engendra un mauvais fils. Abija engendra Asa. Un mauvais père et un bon fils. Asa engendra Josaphat. Un bon père et un bon fils. Josaphat engendra Joram. Un bon père et un mauvais fils. Je constate une chose, Seigneur. La piété du père ne se transmet pas. C'est là une mauvaise nouvelle. Mais je constate aussi que l'impiété non plus n'est pas héréditaire. C'est une bonne nouvelle pour mon fils. Quatre générations et les quatre cas de figure possibles dans les relations entre un père et son fils. Et il aurait pu continuer sa poésie, parce qu'en analysant la suite de l'histoire, un peu plus loin, on retrouve la même chose. Manassé, fils d'Ézéchias, un des meilleurs rois de Juda, mais Manassé, lui, le plus mauvais roi de Juda, engendre Amon. Un mauvais père engendre un mauvais fils. Amon engendre Josias, un mauvais père engendre un bon fils. Josias engendre Joachaz, un bon père engendre un mauvais fils. À nouveau, vous retournez dans trois des quatre sens possibles et vous remarquez que nos équations faciles, là aussi, ne collent pas. Mais, et je le dis en terminant, nous devons quand même constater l'importance indéniable de l'exemple des parents sur leurs enfants, de génération en génération. Mais c'est vrai que nous devons quand même constater que l'exemple des parents sur les enfants a généralement un impact indéniable. Pensez-vous que les filles de Lot, le neveu d'Abraham, auraient si mal tourné si elles n'avaient pas habité avec leurs parents dans la ville de Sodome et Gomorre, où jamais Lot et sa femme n'auraient dû pénétrer? Mais le résultat est là, il y a eu un jour, après ce cataclysme qui annonçait les jugements de la fin, il y a un jour un double inceste dans une caverne à quelques lieues des débris calcinés et souffreux de ces villes ravagées par le feu du ciel. Il y a eu des choses abominables avec la naissance de deux enfants par inceste qui seront les ancêtres des Moabites et des Ammonites. Rappelez-vous Roboam et sa mère, l'Ammonite, qui ont causé tant de tort à Israël. Nous aurions pu prendre le cas d'Élimélec et de Naomi dans mon livre « L'amertume à la grave ». C'est la même chose, n'est-ce pas? Croyez-vous que les fils d'Élimélec et de Naomi, Maclon et Kilion, auraient été tentés d'épouser des femmes moabites si les parents étaient restés comme d'autres dans la ville de Bethléem? Ils n'avaient plus le choix. Il est bien évident que si nous vivons en tant que disciples de Jésus-Christ à la lisière du monde, ou si nous rétrogradons dans le monde, comment pouvons-nous offrir à nos enfants la possibilité de trouver l'épouse ou l'époux selon le cœur de Dieu? Voyez deux exemples. Nous pourrions en prendre d'autres. Nous voulons donc nous arrêter ici, dans cette fin d'après-midi. J'ai mis en mot de conclusion cette question simplement: comment notre Dieu nous éduque-t-il? Notre Dieu nous éduque, c'est vrai, par le moyen de sa parole, animé parfaitement par son esprit. Mais nous devons ajouter aussitôt que notre Dieu nous éduque sur la base de l'exemple qu'il nous donne. Je ne me laisserai pas éduquer par un Dieu qui serait bourré de contradictions. Ce Dieu-là ne m'intéresserait pas. Et c'est pour cela que quantité de divinités, qu'ils soient des grandes religions de ce monde, qu'ils soient du pseudo-christianisme qui court les rues autour de nous, ne m'intéressent pas. Ce sont des dieux qui vivent en contradiction permanente avec eux-mêmes. Ils sont de mauvais exemples. Ils ne sont pas inspirateurs d'une conduite noble. Mais le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui a dit dans 1 Pierre chapitre 1er, dans les versets 16 et suivants, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et c'est intéressant ce texte parce que il est encadré par deux mots. Au verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs coupables que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, puisque celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Vous avez vu que comme prise en sandwich, cette expression « vous serez saint car je suis saint » figure entre l'expression « comme des enfants » et ensuite le mot « père ». Vous avez une relation avec Dieu que vous reconnaissez comme étant votre Père. vous vous dites ses enfants. Eh bien, puisque vous êtes les enfants de ce Père qui est saint, soyez saints à son exemple. Regardez sa sainteté et marchez sur ses traces. Soyez ses imitateurs avec cet avantage incommensurable sur toutes les morales les plus nobles de ce monde. C'est que Dieu donne ce qu'il ordonne. Il vous rend capable de vivre une qualité de vie extraordinaire par son esprit. Il met sa grâce à votre disposition. Il n'est pas celui qui va mettre sur vous des fardeaux très lourds à porter et qui va vous regarder avec un petit œil narquois en disant « Maintenant, débrouille-toi ». Non, il va porter le fardeau avec vous. C'est lui qui va vous transformer à sa ressemblance. Mais regardez, regardez à son exemple.